D'où venons-nous? Comment expliquez-vous l'origine de la vie? Par un Dieu créateur ou par un processus naturel imprévisible, impersonnel, dicté par le hasard? D'où venons-nous? D'où venons-nous, mais aussi pourquoi sommes-nous ici? La vie a-t-elle un sens? Ou s'agit-il simplement d'une série d'événements complètement déconnectés les uns des autres? Encore une fois, événements dictés par le hasard. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Mais en plus, où allons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? Dans quel but vivons-nous et avons-nous été créés? Le premier chapitre de la Bible, celui que nous avons lu ensemble, est d'une importance capitale, parce qu'il répond à des questions fondamentales de l'existence, des questions d'origine, de sens et de destinée que vous vous êtes peut-être déjà posé dans votre vie. Je me suis posé la question de la mort avant de devenir chrétien. Où vais-je? Mais en fait, ce premier chapitre fait beaucoup plus que ça. Dans ce chapitre, l'intention principale de l'auteur, il s'agit de Moïse, selon la tradition, son intention principale n'est pas simplement de répondre à nos questions existentielles, aussi importantes soient-elles ou scientifiques. Je ne suis pas du tout en train de dire que la science et la foi chrétienne sont incompatibles, je ne vais pas rentrer dans le débat création-évolution. Par contre, c'est un sujet qui me tient à cœur, et si vous avez envie d'en discuter, je vous donne rendez-vous après le culte, sur le canapé, pour en discuter avec un verre, d'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat création-évolution, je ne suis pas du tout en train de dire en même temps que la science et la foi sont incompatibles, je crois au contraire qu'elles sont complémentaires. D'un côté, la science répond à des questions très importantes. Quand? Et comment? Autrement dit, comment ça marche? Michel Chevalet, un ancien journaliste de TF1 qui travaille aujourd'hui sur LCI, je crois, avait l'habitude un peu de commencer ses reportages scientifiques par cette question. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Si vous êtes de ma génération, comment ça marche? Ce sont les questions auxquelles répond la science. Quels sont les fonctionnements de l'ordre structuré et unifié dans lequel nous vivons? Mais de l'autre, la Bible répond, à mon sens, à des questions tout aussi importantes. Qui et comment? Des questions auxquelles la science n'a pas du tout vocation à répondre. Qui a créé le monde, par exemple? Et pourquoi avons-nous été créés? Vous voyez, je pense que l'intention de l'auteur dans ce chapitre n'est pas du tout de répondre à nos questions existentielles ou scientifiques, aussi importantes soient-elles. En fait, je pense qu'il est en train de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important pour nous, pour vous, pour moi. Son but et de nous présenter le Dieu de la Bible, mentionné 35 fois en autant de versets, pour que nous puissions comprendre qui il est et l'adorer comme il le mérite. C'est ce qu'écrit un commentateur qui a écrit une introduction à l'Ancien Testament. J'ai eu à lire ce livre dans le cadre de mes études, et je vous lis ce qu'il dit. Il s'appelle Gleason Archer, il est américain, son livre a été traduit en français. Introduction à l'Ancien Testament. Et écoutez ce qu'il dit à propos du livre de la Genèse. Le texte biblique nous révèle guère le comment des processus créateurs dont Dieu sans doute garde le secret. Il nous présente avant tout la personne infiniment puissante et sage du Créateur et les résultats de son œuvre pour nous pousser à l'adoration, la louange, la dépendance, la confiance, la crainte et l'obéissance. Et c'est le but de ce que je vais dire et de ma prière, que la création nous pousse à l'adoration du Créateur. Si ce message doit avoir un effet sur nous aujourd'hui, c'est celui-là, que la création nous pousse à l'adoration du Créateur. Je vous propose de voir quatre choses aujourd'hui. Normalement, dans vos bulletins, il y a une feuille volante sur laquelle figure le plan de ce message. Je vous propose un message en quatre temps. Premièrement, nous allons voir l'origine de la création. Deuxièmement, le moyen de la création. Troisièmement, l'apogée de la création. Quatrièmement, le but de la création. Et dans un second temps, nous allons voir les implications pratiques de ces quatre principes. Donc premièrement, comme c'est écrit, l'origine de la création, Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 1, que je vous propose de relire ensemble. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En une phrase, le premier verset du premier chapitre, du premier livre de toute la Bible, présente une conception de l'origine de la vie qui est radicalement différente de toutes les autres conceptions. L'athéisme, selon lequel Dieu n'existe pas. Le dualisme, selon lequel le monde est divisé en deux forces égales indépendantes. Un peu comme le bien et le mal dans la guerre des étoiles. Vous connaissez ce film, Le bien et le mal. Dans la Bible, aucune trace de dualisme. Le polythéisme, selon lequel il n'existe plus d'un Dieu. Là, non, au commencement, Dieu, un Dieu unique, créa le ciel et la terre. Le panthéisme, selon lequel tout est Dieu, tout est en Dieu et Dieu est tout. Ou le matérialisme, selon lequel la réalité ultime de la vie et de l'existence, finalement, n'est que la matière. La Genèse, le premier verset du premier livre, du premier chapitre, toute la Bible, ne valide aucune de ces perspectives pour expliquer l'origine de la vie. Elle nous place au contraire devant l'existence d'un Dieu unique, un seul Dieu, éternel, Dieu a toujours été avant toute chose, et créateur de tout ce qui existe. Vous avez vu, hein, le ciel et la terre. Autrement dit, le monde dans lequel nous vivons ne s'explique pas par lui-même, mais trouve son origine en celui qui l'a créé. Un jour, il y a eu un commencement. Je ne sais pas si vous connaissez Alfred Kastler. Alfred Kastler a été prix Nobel de physique en 1966, et voici ce qu'il déclare dans un entretien accordé à un journaliste. Je tire cet entretien d'un livre que Christophe, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a gentiment offert, qui s'appelle « Le labyrinthe des origines » par Alfred Kuhn. D'accord ? Regardez ce que dit Alfred Kastler. Sur la face inconnue de la Lune, des astronautes tombent sur une usine automatique produisant de l'aluminium, comme il en existe aujourd'hui sur la Terre. D'un côté, des pelles grattent la Terre et ramassent l'aluminium. De l'autre, sortent des barres d'aluminium. Dans l'usine, les astronautes trouvent des appareils de physique, des machines utilisant le processus d'électrolyse. Ils constatent donc qu'il ne se passe que des phénomènes physiques normaux et qui s'expliquent parfaitement par les lois de la causalité. Conclurait-il que le hasard a créé cette usine ou que des êtres intelligents ont un jour atterri sur la Lune avec eux et l'ont monté. Ces deux possibilités d'explication existent, mais je pose la question. Serait-il logique de penser que le hasard a rassemblé les molécules de façon à créer une telle usine automatique? Aucun esprit n'accepterait l'interprétation. Or, dans un être vivant, nous trouvons un système infiniment plus complexe qu'une usine automatique. Vouloir admettre que le hasard a créé cet être me paraît absurde. S'il y a un programme, je ne conçois pas de programme sans programmateur. Le journaliste lui demande donc, l'idée d'un créateur ne vous serait pas étrangère et ne vous paraît donc même pas étrangère à la réflexion scientifique? Et là, Alfred Kastler de répondre, elle ne m'est pas étrangère parce que je ne peux pas et personne ne peut comprendre l'univers sans une finalité. La science ne récuse en rien l'idée de Dieu. Étonnant, non? D'autres scientifiques athées, sans admettre qu'un dieu puisse être l'origine de la création, reconnaissent qu'il y a eu un commencement. Écoutez ce qu'a dit André Braik. Là encore, je ne sais pas si vous connaissez André Braik, c'est quelqu'un qui parle très 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 vite. C'est très 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 difficile de le comprendre, mais quand ses propos sont recueillis dans un texte, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont bien sûr écrits. Écoutez ce qu'il a déclaré il y a quelques années. Astrophysicien. L'histoire montre à quel point l'idée du grand boom et toutes ses conséquences heurtent profondément les esprits scientifiques, car elles impliquent un instant zéro, c'est-à-dire un commencement. Il existe au moins un consensus, le grand boom. Le grand boom, c'est-à-dire le Big Bang. Le Big Bang, très bien. Mais je pose cette question, qui avait-il avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang? Le Big Bang, à mon sens, ne parle pas du tout de l'origine de la vie, mais simplement de son émergence. Qu'y avait-il avant? Ce sont simplement des questions que je pose. Albert Jacquard, que vous connaissez peut-être aussi, qui est scientifique, a déclaré ceci dans une émission de radio il y a quelques années, ne plus recourir à l'hypothèse d'un créateur rend inexplicable ce qui était avant la création. Quel est l'événement capable de faire apparaître quelque chose au cœur du néant? Bonne question, non? Eh bien, le premier verset du premier chapitre, du premier livre de la Bible, donne une réponse à cette question. Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La création de tout ce qui existe, et dont Dieu est à l'origine, oppose-t-elle à l'adoration du Créateur. Vous voyez comment le premier chapitre de la Genèse et le premier verset nous place, vous place, non pas face à un processus naturel imprévisible et impersonnel dicté par le hasard, mais face à l'existence et à la toute-puissance d'un Dieu qui a tout créé par sa parole. Et c'est le deuxième principe que j'aimerais voir avec vous. Premièrement donc, l'origine de la création en Dieu. Deuxièmement, le moyen de la création, la parole. Des versets 2 à 25. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'auteur de la Genèse aime bien jouer avec un chiffre et un nombre dans ce chapitre. Est-ce que vous avez remarqué ce chiffre et ce nombre? Le chiffre 7 et ses multiples. Le premier verset contient 7 mots dans l'original. Le deuxième verset contient 14 mots dans l'original. 7 fois 2, 14. Je n'ai pas fait maths à l'école, mais 7 fois 2, ça fait bien 14, n'est-ce pas? Dieu qualifie sa création de bonne, devinez à combien de reprises? À 7 reprises. Le mot terre et ciel sont répétés, vous savez combien de fois? 21 fois. 7 fois 3, 21. Le mot Dieu revient, normalement vous savez la réponse à cette question, 35 fois. En autant de versets, le chiffre 7. Et puis il y a aussi le chiffre 10, l'expression « Dieu dit » revient, devinez combien? À 10 reprises, les versets 3 à 29. Et je vous invite à regarder aussi les versets 6 et 7, même phénomène. Le verset 9, même phénomène. Le verset 11, 14 et 15, 20 et 21, 24, 26, 28 et 29. Dieu dit, et il en fut ainsi. Le moyen de la création, le moyen que Dieu a utilisé pour créer. La parole dans sa puissance, dans sa toute-puissance. Le Dieu créateur a amené à l'existence ce qui n'a jamais été. Est-ce que vous avez pris la peine de fermer les yeux et de réfléchir à ce que cela signifie? Dans sa toute-puissance, le Dieu créateur a amené à l'existence ce qui n'a jamais été sans que rien ni personne ne puisse opposé. Il a tout créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ce qui semble être suggéré par l'emploi du verbe bara en hébreu, un verbe exclusivement utilisé pour décrire l'activité de Dieu sans matériaux préexistants. La création dont Dieu est à l'origine, la création que Dieu a faite par sa parole, est-ce que cette création vous pousse à l'adoration? À l'adoration du Créateur. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quelque chose se passe. Et le sixième jour, nous assistons à un événement absolument unique qui constitue l'apogée de la création. Et c'est le troisième principe que j'aimerais tirer de ce texte avec vous. Premièrement, nous avons vu l'origine de la création, Dieu. Deuxièmement, le moyen de la création, la parole. Troisièmement, l'apogée de la création, l'homme. Les versets 26 à 30. Dans ces versets, trois indices révèle qu'un événement important est en train de se passer. Est-ce que vous avez vu ces indices? Premier indice, Dieu délibère avec lui-même. Est-ce que vous avez remarqué ça? Regardez le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comment expliquer ce pluriel? Comment expliquer que Dieu parle à la première personne du pluriel? Alors, plusieurs explications sont possibles. Elohim, le Dieu, le nom du Dieu créateur en hébreu est une forme plurielle, pourrait s'adresser soit à lui-même. Nous croyons en un Dieu trinitaire qui est un quant à la nature, un seul Dieu, et qui est trine quant aux personnes. Il n'y a pas à la fois une seule nature et trois natures divines. Il n'y a pas une seule personne et trois personnes. Pas du tout, il y a un seul Dieu, une seule nature divine qui existe en trois personnes. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Trinité. Il se peut que Dieu s'adresse à lui-même ou bien à son esprit, à l'œuvre dans la création. Est-ce que vous avez remarqué la présence de l'esprit déjà? Verset 2, il est là. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quoi qu'il en soit, c'est un moment solennel. Deuxième indice qui nous pousse à penser qu'un événement très important est en train de se passer, c'est que cette autodélibération, le fait que Dieu s'adresse à lui-même ou à son esprit, intervient au terme de l'œuvre des six jours. C'est la fin de la semaine de la création, un moment suprême. Et puis le troisième indice, est-ce que vous l'avez eu? Au verset 27. Le verbe créer, dont l'auteur est d'habitude très très économe, est répété, non pas une, non pas deux, mais trois fois en un seul verset, le verset 27. un événement hyper important. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet événement hyper important que Dieu est en train de susciter? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, il procède à la création d'un être absolument unique en son genre qui se distingue de tous les êtres vivants, verset 24. Et cet être, vous savez, c'est qui? C'est vous. Et c'est moi. C'est nous, les hommes. Il fait l'homme à son image ou en son image, ce qui peut faire référence à ce que Dieu a, certaines capacités rationnelles et morales, à ce que Dieu fait, c'est-à-dire au privilège de dominer sur la création, de gouverner sur la terre, ce serait une autorité déléguée, ou à ce que Dieu est, son représentant unique, son effigie, sur la terre dans le cadre d'une relation filiale. Personnellement, je privilégie la troisième interprétation, ce que Dieu est, son représentant unique, son effigie sur la terre, mais quelle que soit l'interprétation que vous donnez à cette expression « en image de Dieu » ou « à l'image de Dieu », le sixième jour, la semaine de la création, l'œuvre de Dieu atteint son apogée, le Mont Blanc, l'Everest, mais pas encore son but. Et c'est le quatrième et le dernier principe que j'aimerais voir avec vous. Après l'origine de la création, Dieu, après le moyen de la création, la parole, après l'apogée de la création, l'homme, j'aimerais voir le but de la création, le repos. Chapitre 2, les versets 1 à 3. Dans ces versets, Dieu nous révèle la raison, finalement, la raison pour laquelle il a créé le ciel, la terre et les hommes. Et cette raison, elle tient en un mot, le repos. Vous avez vu? Versets 1 à 3 du chapitre 2. Le repos est le but de la création que Dieu a faite et qu'il bénit, à laquelle il dispense ses bienfaits. Le repos est le but de la création, mais aussi de la rédemption. C'est ce que nous apprenons en lisant la suite de la révélation biblique. La rédemption, c'est-à-dire le plan de Dieu pour sauver une humanité qui, de manière absolument incompréhensible, impensable, va se rebeller contre son Créateur. Au chapitre 3, c'est ce que nous verrons dans quelques semaines. En fait, à l'origine, Dieu nous a créés dans le but de partager son repos avec nous, de nous offrir des vacances. C'est des circonstances éternelles dans la nouvelle création qu'il instaurera quand Jésus reviendra. Alors cette création majestueuse dont Dieu est à l'origine, cette création qu'il a créée par sa parole, dont l'homme est l'apogée, dont le but est le repos, cette création vous pousse-t-elle, me pousse-t-elle à l'adoration du Créateur? Il me semble que c'est l'intention dans laquelle l'auteur a écrit ce premier chapitre. Mais maintenant, vous allez me dire, très bien, ok, l'origine de la création, Dieu, le moyen de la création, la parole, l'apogée de la création, l'homme, le but de la création, le repos. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Quelles sont les implications fondamentales et pratiques de ces quatre principes généraux? Eh bien, c'est ce que j'aimerais voir avec vous pour terminer. L'origine de la création, quelles sont les implications pratiques de l'existence d'un Dieu qui est à l'origine de tout ce qui existe? Alors, les implications sont innombrables. J'aimerais en retenir simplement deux. La première implication, c'est que seul Dieu mérite toute notre adoration. Seul Dieu mérite toute notre adoration. Ce qui prend la première place dans ma vie, dans votre vie, toute activité, les études, le travail, un sport, un loisir, ou toute personne que nous adorons, que nous aimons plus que Dieu, fait office de Dieu. Et c'est grave. La Bible qualifie cette attitude d'idolâtre et nous exhorte à remplacer la créature par le Créateur dans notre cœur. L'Ancien Testament ne cessera de dire « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus dira dans les Évangiles « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Est-ce votre cas ce soir? Est-ce mon cas? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous chérissez par-dessus tout dans la vie? La créature ou le créateur? Ce qui a été créé ou celui qui a créé? Je vous laisse répondre à cette question dans le secret de vos cœurs. Première implication, seul Dieu mérite toute notre adoration. Deuxième implication, la vie. La vie est un don. Je travaille pour les groupes bibliques universitaires qui a pour but de faire connaître la Bible et par elle l'Évangile dans le monde universitaire. Et chaque année, nous sortons, il me semble, deux ou trois. Ouh là là, si mon patron était là, il se permettrait de me reprendre, je ne sais plus. Deux numéros dans une série de livres qui s'appelle la série « Questions suivantes ». Et parmi ces livres, il y a un ouvrage qui a été consacré à la création, qui s'appelle Vivre dans un monde créé, rédigé par Lydia Yeager. Un livre vraiment que je vous conseille, il ne coûte pas très cher, 10 euros. Et voici un tout petit extrait. Voilà ce que l'auteur du livre, qui est professeur notamment de philosophie, voilà la question qu'elle pose. Le monde existe-t-il par lui-même ou doit-il son existence à Dieu? De la réponse à cette question dépend la teneur de nos journées. C'est seulement si nous accueillons l'existence comme un don que nous pouvons vivre dans la gratitude. Et puis dans le même livre, il y a en fait la réponse de Martin Luther à la question « Que signifie Dieu et le Créateur ?» Une réponse extraite de son petit catéchisme en date de 1529. C'est vraiment savoureux. Écoutez. Voilà ce que dit Luther. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les créatures. Il m'a donné et me conserve encore aujourd'hui un corps et une âme, des yeux, des oreilles et tous mes membres, la raison et tout le sens. En outre, il me donne tous les jours et abondamment des vêtements et des chaussures, le manger et le boire, la maison et son train, une femme et des enfants, des champs, du bétail et tous les biens. Il me procure abondamment et chaque jour toutes les choses nécessaires à l'entretien et à la nourriture de ce corps et de cette vie. Il me protège de tous les dangers, me préserve et me garde de tout mal. Il fait tout cela par sa pure et divine bonté et sa miséricorde paternelle, sans aucun mérite de ma part et sans que j'en sois digne. Je dois pour tout cela lui rendre grâce et le louer et en échange le servir et lui obéir. Ceci en toute certitude est vrai. Cette confession de foi pourrait-elle être la vôtre? Accueillez-vous la vie comme un don de Dieu et lui rendez-vous grâce pour cela tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez Matthew Henry, qui est un pasteur anglais. Et après avoir été victime d'un vol, voilà comment il a réagi et ce qu'il a dit à Dieu. Je ne sais pas si on vous a déjà volé quelque chose dans la vie. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a volé, je ne sais pas, de l'argent sur votre compte par Internet? Écoutez comment Matthew Henry a réagi. Dieu, je te remercie, premièrement, parce que je n'ai jamais été volé auparavant. Je te remercie, deuxièmement, parce que même s'ils m'ont pris ma bourse, ils n'ont pas pris ma vie. Je te remercie, troisièmement, parce que même s'ils ont tout pris, ce n'était pas beaucoup. Je te remercie, quatrièmement, parce que c'est moi qui fus le volé et pas le voleur. La prochaine fois qu'on vous vole quelque chose, la première fois qu'on me vole quelque chose, est-ce que je vais réagir comme ça? Accueillir l'existence comme un don de Dieu malgré les circonstances. Deuxième implication, le moyen de la création. Quelles sont les implications de l'existence d'un Dieu qui a tout créé par sa parole? Alors là encore, les implications sont nombreuses, j'en retiens simplement une. C'est que Dieu est puissant. Quand Dieu parle, comme nous avons dit, quelque chose se passe. Il est capable de créer la vie par sa parole. C'est ce qu'il a fait dans la création, mais c'est aussi ce qu'il a fait dans les créatures que vous êtes. Si vous êtes chrétien, Jacques chapitre 1, verset 18, dit qu'il nous a engendré Dieu selon sa volonté, comment? Par la parole de vérité. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, dit: Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. C'est ce que Dieu a fait dans la création, en vous, si vous êtes chrétien, et c'est ce qu'il est capable de faire pour d'autres personnes, pour vous, ce soir, si vous n'êtes peut-être pas chrétien. Avons-nous confiance en la puissance de la parole de Dieu, en l'évangile, pour créer la vie dans le cœur de ceux qui ne croient pas, dans le cœur de nos amis, des membres de notre famille, les plus indifférents ou les plus hostiles à la foi chrétienne? Prions nous-mêmes que ce Dieu-là, Créateur, fasse passer ces personnes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, qu'il transforme leur cœur de pierre en cœur de chair, ce que seul lui peut faire. J'en suis strictement incapable. Vous pensez peut-être à des personnes en particulier en ce moment. Personnellement, je pense à mon père, indifférent, à la foi chrétienne. Seul Dieu peut créer la vie en lui par sa parole, qui est l'évangile. Troisième implication, l'apogée de la création de l'homme. Quelles sont les implications d'un Dieu qui a fait de l'homme l'apogée de sa création? Là encore, les implications sont nombreuses, mais je retiens celle-ci. C'est que Dieu nous aime, il vous aime, et nous avons une valeur inestimable, absolument inestimable à ses yeux, que vous soyez jeune ou moins jeune. Je fais partie des moins jeunes depuis mercredi, j'ai fêté mes 34 ans. Que vous soyez actif, au chômage ou à la retraite, marié ou célibataire. Je suis célibataire pour un mois, mais qui étant parti en Australie hier et revenant à la fin du mois. Que vous soyez en bonne ou en moins bonne santé, au sommet de votre forme, ou complètement déprimé, vous avez une valeur absolument inestimable aux yeux de Dieu. Contrairement à ce que la société, le monde dans lequel nous vivons veut nous faire croire, notre valeur, notre dignité ne dépend ni de ce que les autres pensent de nous, ni de l'apparence, ni de ce que nous faisons dans la vie, ni de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes en tant que créatures faites à l'image de Dieu. Il nous aime. Nous avons une valeur absolument inestimable à ses yeux. Et notre vocation première dans la vie consiste à dépendre de lui, à vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour lui qui nous a créés. Quatrième implication, le but de la création. Quelles sont les implications d'une création dont le but est le repos? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? L'implication principale, à mon avis, c'est que nous ne sommes pas faits pour le travail, mais pour notre Créateur. Vous connaissez Blaise Pascal, vous connaissez peut-être cette citation qui a fait le tour du monde. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et nul autre que lui ne peut le combler. Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre cœur? Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et nul autre que lui ne peut le combler. Saint Augustin a dit à peu près la même chose en des termes tout aussi magnifiques. Dieu, tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Le repos pour lequel la création a été faite relativise considérablement notre travail, qui ne doit pas devenir notre but ultime dans la vie, notre raison d'être. Nous n'avons pas été créés pour le travail, mais pour Dieu notre Créateur, pour être en relation, en communion avec lui. Et c'est précisément ce que Jésus, pleinement mais pleinement Dieu, rend possible. Vous voyez, en acceptant de subir à notre place, en acceptant de subir à ma place les conséquences de notre rébellion, la rébellion d'Adam et Ève, au chapitre 3. Jésus nous offre gratuitement, par pure grâce, la possibilité d'être pardonné de cette rébellion qui nous sépare de notre Créateur, d'être réconcilié, d'être en paix, en règle avec lui et d'entrer dans son repos pour l'éternité. Si vous n'êtes pas chrétien ce soir, si vous réfléchissez peut-être à ce que cela signifie, disciple de Jésus, je vous invite à répondre, sans plus attendre, dans la repentance et dans la foi à cet appel de Jésus, sur lequel je terminerai, tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. » Je propose de prier pour terminer. On peut peut-être réfléchir dans le silence de notre cœur à ce que nous avons entendu, l'origine de la création, Dieu, le moyen de la création, la parole, l'apogée de la création, l'homme, le but de la création, le repos. On peut réfléchir à toutes ces implications, le fait que seul Dieu mérite d'être adoré, le fait que l'existence soit un don, le fait que Dieu est puissant, qui peut créer la vie par sa parole, le fait que Dieu nous aime et que nous avons de la valeur à ses yeux, en raison de qui nous sommes, de notre création en image de Dieu. Peut-être aussi réfléchir aux implications du repos, que nous ne sommes pas faits pour le travail, mais pour notre Créateur. Notre Dieu, notre Père, merci parce que ta parole, la Bible, donne un sens à nos vies. Elle répond à nos questions, mais elle nous présente avant tout le Dieu de la Bible, un Dieu créateur, mais aussi un Dieu rédempteur qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, venu mourir à notre place pour le pardon de nos péchés, ressuscité pour l'espérance vivante de la vie éternelle et qui revient bientôt. Nous prions, Seigneur, que cette création dont tu nous brosses un tableau extraordinaire nous pousse à l'adoration du Créateur. Et c'est au nom de Jésus que nous le prions. Amen.